Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce mardi: mobilisation des taxis à Prague contre un projet de la mairie, gaspillage d'argent, le fonds public des infrastructures de transport dans le viseur de l'Office suprême de contrôle, et du tennis, c'est terminé, Wimbledon pour Tomáš Berdych. Plusieurs centaines de taxis ont protesté ce mardi à Prague contre le projet de la municipalité de renforcer les examens pour obtenir une licence et de les faire passer à ceux qui ont déjà le droit d'exercer. Les nouveaux examens incluraient un test psychologique ainsi qu'un test pour vérifier si les conducteurs connaissent bien la typographie de la ville. La manifestation de ce mardi a entraîné quelques perturbations de la circulation à Prague. Les taxis sont partis du stade de Strahov pour rejoindre la mairie de la ville, où ils ont remis une pétition destinée à la maire Adriana Kornatchova du parti Top 09. À l'heure actuelle, quelques 4000 chauffeurs de taxi disposent d'une licence dans la capitale tchèque. L'Office suprême de contrôle a mené une inspection auprès du Fonds public des infrastructures de transport et dénonce de nombreuses irrégularités dans le travail de cet organisme. Les problèmes portent notamment sur ses besoins en termes de conseils et de soutien juridique. Ainsi, selon les inspecteurs, le fonds a dépensé irrégulièrement environ 129 millions d'euros, dont une partie en externalisant des tâches qu'il est censé réaliser seul. Ce travail sous-traité a de plus été opéré sans appel d'offres préalable. Le fonds n'a pour leur part répondu à ces accusations. Quelques dizaines de militants écologistes de l'organisation Greenpeace ont mené une opération ce mardi à Český Krumlov, ville touristique du sud de la Bohême, pour protester contre l'exploitation du pétrole en mer Arctique. L'action a pris la forme d'un rassemblement de canoës sur la rivière Vltava, bloquant des maquettes de plateformes pétrolières. Dans le centre-ville, des militants accompagnés d'un faux ours blanc, prénommé Paula, symbolisant l'Arctique, ont sensibilisé les passants à cette problématique environnementale. Les militants visent en particulier la compagnie pétrolière Shell, récemment autorisée à faire des forages dans la mer de Chukchi au large de l'Alaska. Du cinéma maintenant, plus de 80 000 tickets ont pour l'heure été vendus pour cette 50e édition du Festival international du film de Carlo Vivari, dont on entame ce mardi la seconde moitié. Selon le service de presse du festival, 11 000 personnes sont accréditées pour l'événement, dont plus de 300 cinéastes et quelques 600 journalistes, et on comptabilise jusqu'alors plus de 200 projections. En tête des films sollicités par le public, on trouve Youth, déjà présenté à Cannes par son réalisateur italien Paolo Sorrentino. Vient ensuite un film tchèque répondant au nom de Domazi Peče, premier long métrage de Slavek Horak. Du tennis à présent, Tomáš Berdych, dernier espoir tchèque dans le tableau simple de Wimbledon, a été sorti lundi soir en 8e de finale. Le 6e joueur mondial a complètement déjoué face au français Gilles Simon, vainqueur en seulement 3-7, 6-3, 6-3, 6-2. Plus tôt dans la journée, Lucie Šafářová n'est pas non plus parvenue à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi londonien. Demi-finaliste l'an passé, la tchèque a été battue par l'américaine Coco Vandevage, 7-6, 7-6. Petra Kvitova, la tenante du titre, a quant à elle été éliminée dès le troisième tour. On termine avec la météo. Cette journée de mercredi marque, en plus de la fête des Nora, la fin de la vague de chaleur en République tchèque, puisque les températures maximales ne dépassent pas les 26 degrés. Côté ciel, c'est couvert et pluvieux en Moravie et sur le nord de la Bohême. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Maignan. La suite de notre programme, c'est maintenant en compagnie d'Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute après ces infos magistralement présentées, il faut bien le dire, par Pierre Maignan. Nous passons à la suite du programme en français de Radio Prague avec aujourd'hui du cinéma et du cyclisme, le festival de Carlo Vivari et le Tour de France. Ce sera avant le panorama du jour et la suite de notre entretien avec Alexis Kimbembe, un élu tchèque d'origine congolaise. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Thank you.
Du cinéma donc pour commencer avec le Festival du film de Carlo Vivari qui bat son plein et des records d'affluence pour cette 50e édition, au vu des files de festivaliers qui parfois désespèrent de ne pas trouver de place faute de tickets encore disponibles. Si cette année il n'y a pas de film français en compétition, plusieurs coproductions françaises sont toutefois présentes dans celle-ci. Pour parler de la présence cinématographique française, Anna Kubishta s'est entretenue avec Joël Chaperon d'Unifrance. Elle lui a d'abord demandé s'il était important pour un festival de regarder en arrière à l'occasion d'une édition anniversaire comme celle de cette année.
Oui, c'est important. Je pense que c'est important parce que c'est important pour la promotion du festival de montrer à quel point quelque chose peut durer sur le long terme. Mais c'est aussi important de se retourner sur son passé, de voir tout ce qu'on a fait. Le festival de Carlo Vivari vient d'éditer un très très beau livre, un bel album qui Baza Oralova a concocté avec des textes et des très belles photos sur les 50e dernières éditions. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, je pense que ce festival a une histoire très particulière. Il a commencé sous la période communiste. Il n'avait lieu qu'une année sur deux, en alternance avec Moscou. C'était vraiment une autre époque, un autre moment. Et je pense que c'est bien pour tout le monde de se remémorer aussi d'où vient ce festival aujourd'hui. C'est un festival qui, comme Berlin ou Cannes, est un vieux festival. Et c'est plutôt un compliment que je fais là. Mais avec une histoire qui est tellement originale que ça vaut le coup de se retourner dessus.
Vous qui venez quand même assez souvent à ce festival en particulier, qu'est-ce que vous pensez un peu justement de cette 50e édition pour les quelques jours que vous êtes ici ?
Ce que je trouve bien, c'est qu'à la fois, c'est extrêmement bien souligné d'une manière promotionnelle, mais il n'y a pas non plus de raison de changer totalement la formule. On va pas, c'est pas sous prétexte qu'on en est au 50e ou au 40e ou au 100e même qu'il faut changer la formule. Le festival de Carlo Vivari a quelque chose de très particulier, c'est qu'il est beaucoup suivi par les jeunes qui viennent et qui envahissent les salles pour aller voir des films improbables à des horaires improbables. Et ça, c'est bien que ça continue comme ça. Donc c'est vraiment pour moi une opération de promotion qui est extrêmement utile. Mais j'ai pas vu de changement particulier. C'est évident qu'on a toujours des stars qui viennent à ce festival. Et il y a peut-être un peu plus de fêtes et en tout cas plus de ce qu'on appelle les goodies qui sont en vente au magasin avec les tasses siglées au 50e anniversaire. Et tant mieux, vu la queue des gens, je pense que tout le monde est très content. Mais ça reste un festival avec une compétition, avec un jury, avec des sections hors non compétitives, avec des documentaires, des rétrospectives, et c'est ça le principal.
Alors justement, pour venir au film, et notamment au film français, combien de productions et de coproductions françaises Unifrance accompagne-t-il cette année ?
Cette année, on a, en revanche, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, on n'a pas de film français en compétition pour le 50e anniversaire. C'est dommage, mais ça, c'est la loi des festivals et le directeur du festival est libre de son choix. Ça n'empêche qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on a le film de Jérôme Bonnel, par exemple, qui est montré ici hors compétition, qui s'appelle À Trois, on y va. Ce qui, moi, me plaît aussi dans cette histoire avec Jérôme Bonnel, c'est qu'il était ici il y a 2 ans en compétition, ou 3 ans. Et donc, c'est bien quand les metteurs en scène deviennent fidèles aussi à des festivals et que les festivals restent fidèles aux metteurs en scène. C'est le cas de Jérôme. J'espère que ce sera le cas aussi pour Thomas Salvador, dont le premier film, Vincent n'a pas d'écailles, a été montré aujourd'hui et qui va sans doute en faire un deuxième et on pense un troisième, bien évidemment. J'espère qu'ils reviendront. On a en tout, la France étant un gros pays de coproduction, une 30aine de films qui sont montrés, toutes sections confondues, et que globalement les Français s'attribuent parce qu'on y a mis de l'argent et que le Centre National du Cinéma français les reconnaît comme français. Donc pour nous c'est important parce que ces films-là on les promeut aussi au même titre que les coproductions majoritairement françaises. On a beaucoup de coproductions minoritaires. On a en compétition un film slovène et français. On a en compétition un film roumain et français. On a en compétition plusieurs films comme ça, donc la France est quand même présente, même si on n'y a pas de films ni de langue française, ni majoritairement français. Mais globalement, chaque année, on a quand même entre 20 et 30 titres qui sont présentés à ce festival. Pour nous, c'est vraiment un festival important.
J'ai envie de dire, puisqu'on est en Tchéquie, quid des coproductions franco-tchèques ?
Les coproductions franco-tchèques, elles sont sur la globalité assez peu nombreuses. Il y a plusieurs types de coproductions. Il y a des coproductions qui sont liées à des tournages ici en République tchèque et les tournages ont été nombreux par le passé, le sont un peu moins aujourd'hui, mais elles continuent d'exister, ces coproductions-là. Mais c'est des coproductions qui sont liées intrinsèquement, on va dire, à un lieu de tournage dont a besoin, pour différentes raisons, un metteur en scène français. Et puis on a des coproductions qui sont plus liées à des scripts, à des scénarios dont l'action se passe véritablement en République tchèque. La majeure partie de ces coproductions-là sont en revanche tournées par des metteurs en scène tchèques qui restent ici pour tourner des films, on va dire majoritairement tchèques et minoritairement français. Et ces deux types de coproductions cohabitent, ce qui fait qu'on en fait quand même quelques-unes par an. Il y a des années avec et des années sans. Mais il y a bien, je pense, une vingtaine de coproductions qui ont dû être faites depuis une quinzaine d'années, d'un peu tous les types. L'important, c'est que la France puisse continuer d'aider les metteurs en scène tchèques à faire des films quand ils en ont besoin, et qu'on ne vienne pas seulement en République tchèque pour tourner à moindre coût des films français. Qu'on y vienne pour tourner des films dont le scénario montre qu'une partie de l'histoire doit se passer à Prague, c'est une chose. Si c'est juste pour des histoires de coûts, évidemment, c'est moins intéressant. Mais je comprends aussi que des films à très gros budget, compte tenu de la qualité des techniciens ici, compte tenu de la diversité des paysages, il y a beaucoup de producteurs français qui soient quand même intéressés pour venir tourner ici, et c'est évidemment bien leur droit.
Après le ciné, comme promis, le cyclisme. Samedi s'est ébranlé, vous le savez, l'immense cortège du 102e Tour de France, composé de 198 coureurs cyclistes et de près de 250 véhicules de la marque Škoda. Fidèle à la grande boucle, le constructeur tchèque de Mladá Boleslav accompagne pour la 12e année consécutive l'organisation sportive Amaury Sport Organisation en fournissant les véhicules de la caravane et ceux de la direction de course. C'est un sujet préparé par Katarzyna Salpkova et Benoît Rouzeau.
Être partenaire automobile du Tour de France est assurément une question de fidélité si l'on considère la durée des engagements entre les constructeurs et la plus célèbre organisation de la petite reine. Peugeot en sait quelque chose puisque la marque française de Sochaux équipa le Tour de France de la direction de course et aux équipes cyclistes dès l'après-Seconde Guerre mondiale pour ensuite devenir le premier fournisseur officiel dans les années 70 et 80. Le constructeur italien Fiat ne la délogera qu'en 1989 et occupera cet espace médiatique prisé et sans équivalent dans le monde durant 15 années. Et en 2004, c'est donc au tour des Tchèques de Škoda de décrocher la timbale en reprenant le flambeau. Rien de plus logique, selon le directeur marketing de Škoda France, Sébastien Auguin.
Il faut savoir que à l'origine, Škoda a été créé par Monsieur Laurin et Clément, Laurin und Clement, qui eux-mêmes ont fabriqué des vélos. C'était en 1895, donc il a été tout naturel un jour que Škoda se rapproche du sport cycliste. Alors le Tour de France, c'est quand même le plus grand événement cycliste au monde, donc ça nous aide à développer l'image et la notoriété de Škoda en France. Le challenge principal de Škoda en France, c'est de se faire connaître comme une marque moderne, technologique. Je rappelle qu'on appartient au groupe Volkswagen, donc on a des technologies très modernes. On a maintenant un nouveau produit, la nouvelle Superbe, qu'on lance sur et grâce au Tour de France.
Une Superbe rouge dans laquelle a pris place samedi à Utrecht le directeur de course Christian Prudhomme pour lancer, depuis son toit ouvrant, le 102e Tour de France.
La nouvelle version de la Skoda Superbe est encore plus belle. Il y a une nouvelle ligne qui est absolument magnifique avec les qualités qu'on connaît de la voiture et que je connais surtout, c'est-à-dire énormément de place à l'arrière. Je mesure 1m90, Gilles Ménion, mon pilote, mesure aussi 1m90, et pourtant à l'arrière, je suis capable dans cette voiture de croiser les jambes. Et c'est important parce que c'est mon bureau en vérité. J'y suis pendant le Tour de France 7h, 8h, 9h par jour. La durée de l'étape, avant, après, pour aller du lieu d'hébergement au départ, pour aller de l'arrivée au lieu d'hébergement. Et puis, c'est pas simplement pendant le Tour, c'est 80 ou 90 jours par an. Donc elle est super fiable, elle est super fluide, bref. Je suis très heureux que nous ayons ce partenariat avec Skoda. Le hasard de la vie fait que le partenariat date de 2004 et que c'est le moment où je suis arrivé. Je n'y suis absolument pour rien, mais je dois dire que je goûte vraiment à ce partenariat.
Le partenariat franco-tchèque n'a cessé de se développer au long de ces 12 années de coopération et continue chaque année à apporter son lot de nouveautés. Sébastien Auguin, le directeur marketing de Skoda, dévoile celle de l'édition 2015 au micro de Radio Prague.
Les premiers rapprochements entre ASO et la société du Tour de France et Škoda ont été initiés par l'équipe en place à l'époque, il y a 12 ans, de Škoda France. Pour un petit partenariat local, il se trouve que Škoda et le Tour de France ont grandi ensemble. Le Tour de France est connu depuis très 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 longtemps, mais c'est aussi professionnalisé dans les dernières années. Et le partenariat avec Škoda est né comme ça de discussions entre l'équipe de Škoda France et ASO. Et puis, la maison mère, Škoda Auto, en République tchèque, a trouvé le partenariat intéressant et là est rentré un peu plus, nous donnant plus de moyens. Donc là, nous a aidé à être encore plus présents et en reprenant une négociation pour avoir le maillot blanc qu'on avait jusqu'à l'an dernier, donc le meilleur jeune du Tour. Donc c'était dans l'esprit aussi de Škoda. Et maintenant, on est passé au maillot vert qui est le meilleur sprinter et surtout la couleur qui est la couleur de Škoda. Donc là, on est très très content.
Malgré la plaie du dopage ces dernières années, la vitrine efficace que constitue le Tour de France et ses 1,4 milliard de téléspectateurs dans le monde a permis à Škoda de nouer des liens un peu plus étroits dans le milieu du cyclisme, alors qu'on était surtout habitué à voir la marque à la flèche ailée sur les compétitions de hockey sur glace. symbole de cet attachement au vélo, Škoda est ainsi devenu partenaire de la Fédération française de cyclisme, sponsor des équipes cyclistes professionnelles telles que Cofidis ou les Belges de l'Auto Soudal, équipe la célèbre classique pavée de Paris-Roubaix et un autre grand du Tour depuis 2011, celui d'Espagne, plus connu sous le nom de Vuelta.
On passe à la deuxième partie du programme en français de Radio Prague. Une deuxième partie aujourd'hui consacrée à l'entretien réalisé avec Alexis Kimbembe, arrivé de son Congo natal en 1987 et resté depuis en République tchèque où il a obtenu diplôme et nationalité. Dans cette deuxième partie, il est revenu pour Radio Prague sur son entrée dans la politique locale tchèque.
Panorama.
Panorama.
En politique, j'étais parce que ma femme, elle était de la droite, c'est-à-dire elle était libérale un peu.
De l'ODS.
Pas de l'ODS, bon, elle ne faisait pas la politique, mais elle était un peu libérale. Et moi, dans mon milieu, il y avait les gens de l'ODS. Donc, j'avais mon meilleur ami était de l'ODS. Donc, automatiquement, je me suis adhéré.
Donc, vous avez pris votre carte et la première fois que vous êtes présenté à des élections, c'était quand ?
En 2002, je crois. 2002. J'étais 11e, mais par rapport aux préférences générales.
Les voix préférentielles.
Les préférentielles, j'étais 5e. Donc, c'était magnifique. J'avais plus de voix que le maire qui était à l'époque.
Il y a une maire d'un quartier d'Ostrava, de votre parti, qui s'est fait remarquer ses remarques plutôt racistes, voire très racistes. Vous la connaissez ?
Oui, je la connais. Je la connais très bien. Il y a certains langages. Quand on est un homme politique, bon, il y a une certaine façon de parler. Bon, elle est un peu... Elle dit tout haut ce qu'elle pense. Bon, mais cette façon de dire, ça n'engage qu'à elle. Moi, je ne conçois pas cela, mais en réalité, c'est une vérité qu'elle dit. Ça se passe comme ça. Ces gens-là, moi, je suis noir. Ici, je m'arrange à avoir le boulot. Je m'arrange à faire quelque chose. Pourquoi pas eux ? Aujourd'hui, quand quelqu'un dit non, je ne peux pas étudier parce que... C'est comment on appelle ce qui est en Afrique du Sud, c'est...
L'apartheid.
C'est n'importe quoi. Moi, j'ai étudié ici.
On dit souvent que les enfants roms sont quand même placés d'office dans des écoles pour enfants à déficience mentale.
Déficience mentale, c'est pas la vraie raison. J'ai vécu un peu dans ce milieu. Enfin, je connais le milieu. J'ai discuté avec certains. Parce que quand on leur dit, écoutez, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, qui n'est pas allé à l'école, ça serait très difficile de discuter avec quelqu'un ou d'imposer quelque chose. C'est l'éducation d'abord. Donc, envoyer les enfants à l'école pour que cette génération puisse faire quelque chose, mais quand les parents ne forcent pas les enfants d'aller à l'école, c'est très difficile pour que cette mentalité-là change. Donc pour moi, les gens disent ouais, les Tchèques, les racistes, tout ça, écoute, le racisme c'est pas en Europe, mais moi je vis en Tchéquie, personne ne m'a agressé, je n'ai jamais vu quelqu'un, quelqu'un peut dire des bêtises, il y a toujours, dans la société, dans chaque société, il y a toujours des gens un peu dingues, des gens, ça existe, mais on ne peut pas généraliser, je n'accepte pas.
Alors vous en êtes à votre troisième mandat, et après Ostrava, vous vous êtes installé à Uvali, c'est à 20 minutes de Prague en train, Et comment ça s'est passé, votre implantation là-bas, votre élection ?
Je suis arrivé parce que j'ai ma copine, elle vit là-bas. Parce que moi, je vivais à Clano. Bon, j'ai fait la connaissance de cette fille. Donc, je me suis déplacé. Je vis là-bas, c'est la sixième année. Bon, comme je suis actif dans la politique, j'étais contraint d'être membre de ODS à Ovalie. Bon, aux élections, je ne voulais pas vraiment m'engager comme tel, mais le maire qui était là, c'était le maire d'ODS, il dit non, mais il faut être dans la liste. Bon, les élections, parce que j'étais quatrième. Celui qui était le premier, c'est un jeune, parce qu'il ne s'attendait pas qu'il devait être voté, donc il a quitté. Donc comme j'étais le second, le premier, si quelqu'un se désiste, je suis passé. Arrivé, parce qu'il fallait faire la coalition, il y a Otevgeno Ouvali, un parti, un mouvement, c'est comme Anon, des trucs. Il y avait Pro-Ouvali, il y a Odès, il y a les social-démocrates. Bon, comme il y avait la coalition, on a dit le maire doit être de Otevgeno Ouvali, l'adjoint au maire doit être Odès et l'autre adjoint au maire pour social-démocrates. Bon, or j'étais parmi les deux, parce que les deux, ils n'ont jamais fait la politique, ils sont là. Donc j'ai fait, moi, la politique, donc on m'a nommé, donc je suis arrivé.
C'est combien d'habitants en Valais ?
6200.
Comment ont été les réactions des électeurs une fois que vous avez été élu ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris d'avoir un adjoint au maire africain ?
Oui, pas trop surpris, mais parce que j'étais lors des élections. Oui. Je suis moi-même étonné que les gens vraiment me prennent en compte. Comment je peux dire
Le respect.
Ouais, il y a le respect, ça va.
Alors, vous avez un ami qui est aussi du Congo-Brazzaville et qui est également élu à la mairie de Nimbourg, une autre petite ville de Bohême. Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs autres ou vous êtes les deux seuls ?
Nous sommes... Bon, à l'époque, on était deux à l'époque. Mais l'autre, il est aussi du Congo-Brazzaville. Il était membre aussi de ODS à Bruno. Actuellement, je ne sais pas s'il est au Congo. Parce qu'il n'est plus ici, là. Il est au Congo. Bon, actuellement, nous sommes deux. Il est social-démocrate. Moi, je suis Odès, la droite. Donc, ça, c'est son deuxième mandat parce que lui, il est conseiller municipal de Nimbourg je crois, régional aussi. Je ne sais pas.
Ça va, vous ne débattez pas trop fort quand vous voyez ?
Oh non, moi, je taquine un peu là. Je taquine, mais ça va, ça passe.
Peu après votre première élection, c'est le fondateur de l'ODS qui a pris la présidence de la République. Il vous a inspiré en politique, Václav Klaus ?
Václav, oui, il m'a inspiré, mais ces derniers moments, non. Ces derniers moments, c'est quelqu'un qui c'était notre chef. Je n'en discutais pas ses idées. Je connais la personne. Ce qu'il dit. Parfois, c'est pas aussi mauvais quand il critique l'Union européenne, le fonctionnement. Mais lui, en tant que démocrate, il doit comprendre l'Union européenne existe, c'est la démocratie, il y a des votes. Donc, quand on est minoritaire, on peut critiquer, mais on ne peut pas dire non, parce que ma loi ou ce que je pense... ne passe pas, on va quitter l'Europe. C'est pas ma vision. c'est pas ça. Bon, il m'a déçu ces derniers temps, vraiment. Son langage, je comprends pas. Je le comprends pas actuellement là. Mais à l'époque, c'était mon idole. Mais maintenant, non.
Il y a une crise au sein de l'ODS. L'ODS vient de traverser une crise assez difficile. Est-ce qu'il y a quand même dans ce parti des gens qui vous semblent à même de faire remonter le parti?
Oui, actuellement, le chef de l'ODS, le président Fiala, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un vraiment qui veut que ODS fonctionne comme il se doit. Le problème de ODS, c'est les gens qui venaient, ce n'était pas pour faire de la politique, mais pour des intérêts personnels. Ça nous a beaucoup, surtout à Prague, ça nous a beaucoup vraiment touché.
On a beaucoup parlé des parrains de l'ODS.
Oui, les parrains, oui. C'est ça le grand problème. Bon, mais actuellement, je crois que comme nous ne sommes plus au pouvoir, ces gens-là, est-ce le moment vraiment de refaire le chemin pour que l'ODS, d'ici dans 8 ans, on peut reprendre la place? Bon, on verra comment ça se passera.
Vous ambitionnez d'accéder à la politique d'un niveau supérieur, de passer au niveau national?
Oh, j'ai pas l'ambition. Bon, parce que c'est le problème de la langue. Je comprends très bien. Ça, il n'y a pas un problème. Ben, mais quand quelqu'un veut faire la politique, vraiment, aller au Parlement ou au Sénat, vraiment, il faut quand même l'expression. Il faut que je m'exprime correctement. Donc, j'ai pas les ambitions. Bon, on verra.
Vous y pensez le matin en vous rasant?
Oh, non, je ne pense pas. Je laisse le temps au temps, on verra.
Est-ce que vous envisagez de rester toute votre vie en République tchèque?
Je crois que oui, je serai ici. Bon, de temps en temps, je verrai. Si ma situation, l'état de ma santé, d'ici l'année prochaine, maman est déjà vieille. Bon, papa est mort, je ne l'ai même pas vu. Donc il y a maman qui est un peu... Je veux au moins faire un tour au Congo, je verrai. Mais ma copine ne veut pas. Elle a peur. Mais il faut que j'aille. Bon, après la retraite, on verra. Ça, je ne sais pas. Mais je laisserai ici.
Président de la République tchèque?
Non. C'est difficile. Ça, hein. Je connais la politique. Je connais la politique d'ici. Donc, c'est...
Merci beaucoup.
Pas, non, pas de quoi.
C'était Alexis Kimbembe. Pour écouter cet entretien et toutes les autres émissions de Radio Prague, c'est sur le site internet www.radio.cz. www.radio.cz. Au revoir, à très bientôt.